Le pape, sur la lande infinie, plate ainsi qu'une mer, il s'érigeait seul comme un grand dôme de feuillus. C'était un chêne gigantesque, un chêne extravagant et fabuleux, avec un tronc énorme d'où s'en allait, contourné et bizarre, pareils à des membres de colosse, ses branches noires toutes velues de mousse. C'est le plus bel arbre du pays, le plus vieux, le plus apparent. Et les voyageurs se le montraient de loin, comme les matelots se montrent un phare. Il s'appelait le pape. Pourquoi le pape, on ne sait pas, mais parce qu'il était haut, sans doute, et prestigieux, et gravement solennel, sur la lande vaste à ses pieds, aplatie. Et le pape, comme s'il avait eu conscience de son curieux nom donné par les hommes, étendait ses branches, ses bras innombrables autour de lui, sur les humbles bouleaux et les pins infimes, dans une pose de prélat vert, bénissant d'obscures ouailles. Un jour, par un violent soleil d'août qui le surplombait avec des airs d'auréole, le pape vit, car il voyait, sentait, pensait comme un homme, au dire des paysans superstitieux. Le pape vit deux jeunes bûcherons s'arrêter sous lui. Il les connaissait bien, ces bûcherons. C'était un jeune homme et une jeune fille du pays, deux êtres secs et rares, qui, dans la fréquentation quotidienne des arbustes et des fougères, avaient pris à la longue un aspect vague de deux plantes vivantes se trouvant au milieu de leurs immobiles amis. L'un s'appelait Louis, l'autre s'appelait Cadette. Tous deux s'étaient promis le mariage dès l'enfance, en ramassant du bois mort sur la lande. Et chaque soir, avant de rentrer, le dos ployé par les fagots, ils s'arrêtaient sous le pape, puis s'asseyait sur une de ses racines, une racine confortable, comme un divan moussu. Ce jour-là, les deux bûcherons s'assirent en s'essuyant le front. Ensuite, au lieu de travailler et de confectionner des fagots en ramassant le bois sec répandu sur la plaine, ils se couchèrent côte à côte. La chaleur était harassante. Alors, le pape, grandiosement, agita ses branches élargies comme des éventails et caressa de brise les faces rouges des fiancés endormis. Il les caressa si bien qu'au soleil couchant, les deux bûcherons dormaient encore. « Oh Louis, Louis !» appela soudain Cadette, entre-temps en ouvrant ses grands yeux étonnés. « Quoi, il n'y a plus de jour !» Louis se réveilla en sursaut, et en une minute, ils restèrent ébahis, ahuris tous les deux. « Et les fagots ?» s'inquiéta Cadette. Nous n'avons plus le temps maintenant. Ils furent très malheureux en voyant que la nuit les surprenait sans qu'ils eussent ramassé une brindille. Mais Louis leva la tête. Tant pis, dit-il. Cette fois, le pape est sûr de son ombre. Et il montra du doigt, là-haut, une vieille branche morte, toute noire, toute effeuillée, qui semblait un gros membre paralysé au milieu des autres branches rosées de manière rose. Il y avait longtemps que Louis, oh, un mauvais sujet en somme, avait songé à cette branche morte. Cependant, le prestige de l'arbre lui en avait toujours imposé. Touché au pape, quel sacrilège ! Les bûcherons du pays préféraient passer des journées entières à battre les buissons, une lieue à la ronde, tant le pape était sacré à leurs yeux. Certes, ils connaissaient tous la branche morte dont ils auraient pu faire 30 fagots, mais jamais ils n'avaient osé y toucher. Et dans ces confessions dont ils causaient le soir, les pensées mauvaises lorsqu'ils étaient restés trop longtemps les yeux fixés sur ce bois mort, en caressant la main, le manche de la serpe suspendu à leur taille. Ce soir, pourtant, Louis n'hésita pas. Il jeta son béret, défit ses bottes, assujettit la serpe à son côté, et après avoir mesuré de l'œil la hauteur de la branche morte, il grimpa sur le dos du pape. « Que fais-tu ? » dit Cadette. « Oh non, malheureux ! Descends !» Elle se précipita sur le bûcheron, furieuse, pour empêcher cet acte impie. Mais il était déjà là-haut. Lestement, il avait escaladé l'arbre, s'accrochant à ses ramures, s'arc-boutant sur ses pieds, et main le long des tiges énormes comme ces insectes menus qu'on voit monter le long d'une paille. Et Cadette trembla, les mains jointes. Louis arrivait au bout. Il avait sous ses pieds la branche morte. Il s'installa dessus à califourchon et de la main gauche, il atteignit une branche supérieure et de la droite, il accrocha sa serpe. « Oh non, non, non !» cria Cladette, épouvantée. Louis ne parut pas entendre et les yeux éblouis du soleil couchant, la serpe luisant en sa main comme un éclair jaune, par grands coups forcenés, en démence, sans pitié, il frappa hardiment, le coup sec répété s'entendirent dans le soir, et des esquilles de bois, comme des lambeaux de chair palpitante, s'envolèrent en tout lieu sous les morsures brutales du fer. Clac, clac, les oiseaux se turent. Et là-haut, les branches semblèrent se retourner comme pour voir ce qui s'accomplissait là. Le soleil baissait, le bas de l'arbre était déjà noir. Soudain, Louis pâlit. Le sommet du chêne était rouge comme un front chargé de colère. Alors, achardé, il redoubla ses coups, et la branche, la lourde branche, la noire blanche noire, poussa un vague clameur de fibres rompues. « Louis !» cria en bas Cadette. Mais Louis donna un coup suprême, un grand coup désespéré, et la branche lentement s'inclina, se détacha, puis avec un grand vent qui effara les branches voisines, s'abattit. Mais un double cri retentit soudain. le tronçon de branche sur lequel était Louis avait rebondi après la chute du bois coupé, et le bûcheron, lancé en l'air comme une balle élastique, pirouettait dans les feuillages. « Mon Dieu !» cria Claudette, et lourdement, Louis retomba d'en haut, épouvanté, puis s'abîma à travers les rameaux de branches battues. Cadette s'élança. Oh, cette branche noire! Elle semblait s'acharner sur le jeune homme. Elle frémissait encore comme un tronçon de vipère mal tué. Et puis criait vaguement, menacée par elle. La jeune fille prit cette branche noire dans ses deux bras et comme une ennemie qu'on terrasse, elle la jeta de côté. « Cadette, Cadette !» balbutia Louis dans la bouche jetait un filet de sang. Il essaya de tendre vers elle ses bras lamentables, et il ne put. Et Cadette, au risque de l'étouffer, le serra sur sa poitrine alors, de toutes ses forces, avec un grand sanglot qui la déchirait la gorge. « Viens, tu feras encore du mal !» dit-elle brusquement. Elle prit Louis dans ses bras et s'éloigna vite en faisant s'arrêtant, en regardant derrière elle comme si elle avait eu peur de voir l'arbre maudit se mettre à ses trousses. La nuit tombait, du couchant jaune et brillant, fort comme de la soie, des vols de nuées partaient, des rangées de froses. Cadette, ployée en arrière, courut dans la lande en emportant Louis. C'était là-bas, très loin, que demeurait le bûcheron. Plusieurs fois, elle dut se reposer. On trouva un berger qui ramenait son troupeau, un troupeau gris de brebis rondes pressées les unes contre les autres, et qui marchait menu, la tête basse. Le berger s'approcha de Louis, le tâta, puis dodelina de la tête d'un air inquiétant. Cadette repartit, le cœur en feu. On trouva un laboureur qui revenait de champ avec ses outils sur l'épaule et qui chantait une chanson traînarde répétée par l'écho. Mais Cadette ne voulut pas approcher le laboureur de peur d'apprendre que l'état du blessé ne laissait plus d'espoir. Et les cheveux ruisselants de sueur, le cœur exténué d'angoisse et de fatigue, sans plus dire un mot, sans plus s'arrêter une seule fois, elle courut jusqu'à la demeure du bûcheron. Elle arriva aux premières étoiles. « Voilà !» fit-elle d'une voix sourde en déposant le corps meurtri de son amoureux. C'est le pape qui a tout fait. Louis voulait lui couper une branche, alors il l'a jetée encore par terre. C'est le pape. Et aussitôt, furtivement, sans attendre qu'on examinât le corps du blessé, mais pressentant que la blessure était des plus graves, Cadette regarda au loin vers la lande plate. Et déjà, de ténèbres, puis s'en alla. Elle marcha vite en grommelant des paroles. Elle prit le chemin qu'elle avait suivi pour apporter le bûcheron. Elle avait le cou tendu, la bouche entrouverte, et elle semblait chercher quelque chose dans l'obscurité profonde avec ses yeux fureteurs. C'est vers le pape qu'elle se dirigeait. À quoi bon aller chez le médecin ou chez le curé? Le pape seul pouvait guérir Louis. Elle en était convaincue. Et Cadette tressaillit soudain en apercevant le dôme majestueux de l'arbre dans la nuit. La lune se levait là-bas, énorme et rouge, pareil à un ballon enflammé, et les nuages semblaient se précipiter vers elle, comme vers une lampe, un vol d'insectes énormes et nocturnes. La bûcheronne redoubla de vitesse. À son passage, les plantes invisibles tressaillaient et murmuraient des choses obscures. Elle arriva sous le pape. Son cœur battait comme si elle comparaissait devant un juge. Elle porta les mains à sa poitrine. Elle eut peur de défaillir. Le pape, immobile et grave, entrait vers le ciel, furaient ses bras de nouvelles membres énormes qui semblaient s'en aller et caresser les étoiles. Et entre ses racines géantes, pacifiquement, les grillons chantaient leurs vagues magnificates de bêtes bienheureuses. Cadette s'arrêta. Et sans hésiter, levant les yeux vers certaines parties méchantes, médianes de l'arbre où elle se figurait que le pape avait sa tête, elle dit « Tu sais, il faut me le guérir. Oui, oui, me le guérir. Je ferai tout ce que tu voudras, tout. » Mais il faut qu'il guérisse. Tu veux peut-être que je me mette à genoux pour te demander ça? Bien. Me voilà à genoux. Tu veux peut-être que je baise tes pieds ici? Voici. Je les baise. Tu vas me guérir. Ah, qu'est-ce que je deviendrai? Moi, lui mort, qu'est-ce que je deviendrai? Et elle se mit à fondre en larmes. L'arbre semblait écouter. Toutes ses feuilles faisaient silence. La lune, jaune actuellement, avait l'air de se reposer sur un de ses rameaux comme une tête fantastique d'animal curieux. Oh, tu veux sans doute que je te donne un engagement, un gage, que je fasse un serment, un vœu, demanda la bûcheronne. Elle parut réfléchir. Elle chercha quelque chose de terrible, d'épouvantablement douloureux, de surhumain et presque irréalisable, pour attendrir le chêne. Et, relevant son front tout à coup, « Eh bien oui, » clama-t-elle, « tu sais si je l'aime, n'est-ce pas? Combien je l'aime? Eh bien, je te promets, Sylvie, de renoncer à être sa femme. Fais-le vivre, même pour une autre, mais fais-le vivre. » Et elle courba le front contre terre, comme si l'énormité de son aveu l'avait terrassée. Une brise tiède passa sur le pape, et pareil à l'invisible archet fit chanter toutes ses feuilles. « Ah, tu acceptes !» dit la jeune fille avec exaltation. Et se figurant que l'arbre avait effectivement répondu, elle se releva, puis à grands pas, heureux, elle s'en retourna par la lande noire, engourdie sous la lune. Et Louis guérit. Oh, longtemps on l'avait cru incurable. Mais au bout de 6 mois, il se releva. Au bout de 7, il se remit à faire des fagots. Et au bout de 10, Cadette osa le regarder avec des yeux tendres comme autrefois. Le pape verdoyait toujours, indifférent. « Oh, quitte le pays, veux-tu ? » dit un jour Cadette à son fiancé. Et ses yeux se gonflèrent de larmes. Louis ne comprit pas. Il voulut au contraire fixer tout de suite dans le jour de la noce. « Oh non !» s'écria Cadette, bouleversée. « Je ne peux pas !» Elle le fit patienter ainsi la moitié d'une année. « Tu ne veux pas être ma femme ?» demanda-t-il un dimanche.
« Non. »«
Très bien, j'en trouverai qui voudront. » Et il partit. Cadette crut mourir. Elle se traîna derrière lui à travers les champs avec des sanglots. Lui la laissa faire et se dirigea vers le bourg voisin où se tenait une assemblée. Mais Cadette se jeta sur son fiancé violemment au moment où il allait inviter une jeune fille à danser. Bon, tout ce que tu voudras, tu entends, lui dit-elle, tout ce que tu voudras. Et l'on convint de se marier à la Saint-Pierre. La veille du jour fixé pour la noce, il soleilla horriblement. Ce fut un jour de chaleur torride. Cadette allait et venait dans sa maison sans dire une parole, comme une somnambule. Vers les 4 heures de l'après-midi, un grand vent se leva, un grand vent qui amena au ciel de lourds et de blancs nuages. Au loin, le pape se convulsait sinistrement. Et quand elle le vit, Cadette frissonna. Tout de suite, elle voulut parler à Louis. Alors elle courut le chercher. « Le vois-tu ? » dit-elle à voix basse. Elle lui prit le bras et d'une voix étrange manifesta le désir de faire une promenade dans la lande. Oh, il pouvait bien lui céder, pour une fois, la veille des épousailles. Ils sortirent. « Oh non, pas du côté du pape !» recommanda-t-elle en prenant une direction opposée à celle que prenait Louis. Et quelques secondes après, sans savoir comment cela s'était fait, elle se surprenait elle-même sur la route conduisant à l'arbre. Le jour s'obscurcissait. Le vent, avec ses bouffées chaudes, faisait en monter du sol des nuages de poussière. Cadette se mit à trembler. « Qu'est-ce que tu as, voyons ?» lui demanda Louis, un peu inquiet. Elle ne répondit point. Ses yeux hagards, dilatés, regardaient le pape. Et toujours, en se serrant contre le bras de Louis, et comme malgré elle, la jeune fille avança. l'arbre s'échevelait et se hérissait. À certains moments, il paraissait se ramasser sur lui-même et s'apprêtait à bondir dans la campagne comme un fauve déchaîné. « Le vois-tu ? » balbutiait Cadette. « Le vois-tu ? » Oh ! Le vent allait le déraciner, certainement. Le déraciner et l'emporter, grondant et formidable, dans un brouhaha de tempête. Et l'arbre allait frapper, flageller toutes les choses à tour de bras, avec ses branches noueuses, qui se contorsionnaient, qui s'abattaient, qui tourbillonnaient, qui sous les nuages comme des bras d'Hercule en courroux. « Le vois-tu ? Le vois-tu ? » Soudain, le vent cessa, et du bord de l'horizon surgit un nuage blafard. Les branches du pape s'apaisèrent, mais Cadette claquait les dents. Oh, elles avaient des mouvements étranges maintenant, ces branches redoutées. Elles se balançaient à ses yeux, elles se balançaient comme des mains d'hommes faisant des passes magnétiques. Et c'est Verzel, oui, Verzel, seul, qu'elles envoyaient leur fluide horrible. Ah, elle le sentait bien. L'arbre l'appelait, l'attirait de toutes ses forces mystérieuses. Elle aurait pu être attachée à un cheval, à 10 chevaux, à une locomotive roulant en sens inverse. Elle aurait marché à lui quand même. Toute la plaine était au pape. Il la dominait, il l'influençait. Il fascinait les choses ambiantes, et Cadette allait tomber en sa puissance comme un oiseau pris de vertige dans la gueule d'un serpent. « Où vas-tu ? » cria Louis. « Pourquoi m'emportes-tu comme ça ? » Alors, puisque le bûcheron résistait, le pape allait faire un signal là-haut, et le nuage bâtard, pareil à son allié, sinistre, entra en scène. Il s'étala dans le ciel, il envoya quelques nuées légères ainsi qu'une cavalerie d'avant-garde, puis, tout à coup, comme si un éclair profond le transperçait, il se vida tel qu'une outre énorme et noya la terre. Oh, ce fut si brutal qu'une poussière s'éleva comme sous une chute de pierre et les grêlons s'abattirent, les feuilles claquèrent, les branches grincèrent. Le sol assoiffé sonna sous les pierres obliques, et l'on eût dit d'un roulement de tambour tragique, battu par des milliards de baguettes énormes. « Viens, viens, viens t'abriter !» dit Louis éperdu, et lui-même il entraîna Cadette alors, et la poussa vers le pape. C'était le seul grand arbre, le seul refuge, la seule protection de la plaine. Et à moins de se laisser tuer, de se laisser hacher sur la terre, nue, Cadette et Louis firent courir désespérément vers le chêne. Il les vit venir. Et il exulta, il eut l'air de se hausser comme dans une pose de triomphe. Et sur sa tête, un grondement sonore de tonnerre sembla sa voix criant « Victoire !» Cadette s'affaissa dans les bras de Louis. Ses jambes se rompaient sous elle, ses bras fléchissaient, inertes. Son cœur s'arrêtait, anxieux. Ses yeux seuls, ses yeux palpitants et affolés, vivaient, regardaient le pape. Ils le virent grandir, grandir dans une progression de vertige, grandir, remplir le ciel de son être vengeur, grandir, grandir et agiter toutes ses branches noueuses, furieuses, tous ses rameaux, en frayant comme des tentacules. Oh, tout ce qui va la saisir, l'enlever, la noyer. Encore 10 pas, 5 pas, 2 pas. C'est fait. L'y voici. Et Cadette ferma les yeux. Mais alors, là-haut, le ciel sembla s'ouvrir tout à coup. Et une colonne de feu s'abattit sur le pape. Dans le roulement du tonnerre, 2 cris, 2 suprêmes cris partirent, lancés à pleine gorge. Et les 2 bûcherons tombèrent foudroyés. Le vois-tu, le vois-tu, Louis? Râla Cadette. Il se venge. Il y a longtemps de cela. Mais les paysans superstitieux racontent encore avec mystère cette histoire fantastique. Toute simple pourtant, d'un bûcheron, d'une bûcheronne naïve, que l'obsession d'une idée fixe avait mené sous un arbre un jour d'orage. Et le pape redouté vit toujours, là-bas, sur la lande infinie, plate comme une mer.